17h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de 7h sur Radio de la Paix. En titre de ce journal, eh bien, les 650 milliards de francs CFA annoncés comme budget pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Eh bien, pour Dr Germain Cramo, enseignant en économie, cet investissement aura des retombées à tous les coups pour le pays.
Le président Henri Konan-Bédié.
Et puis à Tabou, des cantines d'écoles primaires publiques de certains villages ont bénéficié de dons vivres de la part de l'ONG Mon Enfant, Mon Futur. Les détails dans ce bulletin avec notre correspondant dans le Bas-Sassandra, Kofi Benson. Et puis hors de nos frontières au Tchad, l'opposition appelle Déby à renoncer à la présidence et accuse l'État français. La revue des titres des journaux ivoiriens parus ce jeudi sera l'affaire de Francis Cassi. Et puis en toute fin d'édition, nous aurons l'invité de la rédaction de ce jour qui est Cyril Kofi, gérant de la société de gestion et de concept en informatique SGI, concepteur de l'application mobile Santé Côte d'Ivoire. Il en parlera avec Paul-Bénédicte Bolou. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire, d'après ses autorités citées par un média international, aurait dépensé au moins 1 milliard d'euros, soit 650 milliards de francs CFA pour l'organisation de la CAN. Pour un enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le jugement que l'on pourrait porter sur cette somme importe peu, car, soutient-il, le pays y gagne à tous les coups en termes de retombées diverses. On écoute Dr Germain Cramo, joint par Francis Cassi.
Pour l'organisation de cette CAN, la Côte d'Ivoire a beaucoup investi et il y a plusieurs retombées. D'abord, au niveau politique, l'organisation de la CAN est un vecteur de communication. Ça contribue à améliorer l'image du pays à l'extérieur et ça contribue à attirer des touristes, des gens qui vont tenter de venir visiter ce pays. Et aussi, certains investisseurs vont aussi tenter de venir investir en Côte d'Ivoire. Donc déjà à ce niveau, la CAN peut contribuer à attirer des investisseurs. Et en termes de vecteur de développement, il y a plusieurs infrastructures qui ont été construites durant cette CAN, ou bien la rénovation même de certaines infrastructures. Si nous prenons par exemple les terrains des lycées et collèges, des villes dans lesquelles se déroule la CAN, il y a plusieurs qui ont été renouvelées. Donc ça aussi sont des retombées qu'il faut souligner. Ensuite, il y a le développement du réseau routier. Nous avons vu l'accélération pour l'ouverture de la Y4. Donc cette Y4 qui va contribuer même à la fin de la CAN à fluidifier le transport à Abidjan. Et puis, il y a les autres aspects économiques. Parce que lorsqu'on construit un stade, on a besoin d'employés. Donc, si nous prenons par exemple le cas de San Pedro, ce sont des emplois qui ont été créés, donc des revenus sont versés à ces personnes. Ensuite, pour les villages CAN aussi qui sont construits, donc vous voyez plus ou moins l'organisation de cette CAN a contribué à la création d'emplois pour certaines personnes qui ont permis d'avoir un certain revenu. Donc, voici plus ou moins des retombées de cette CAN sur l'économie.
C'était à l'instant l'enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Dr Germain Cramo. Et puis le président de la commission électorale indépendante CEI se dit fier du cycle électoral qui a démarré depuis 2019 et qui vient de s'achever avec l'élection sénatoriale de septembre dernier. Pour lui, ces résultats ont été obtenus grâce au travail acharné de la CEI, mais également et surtout grâce à l'environnement politique et social apaisé et à la maturité des acteurs politiques. C'était à l'occasion de la cérémonie de vœux de nouvel an du personnel de l'institution électorale à son président. Écoutons Kibier Koulibaly Ibrahim.
La commission électorale indépendante a organisé au cours de ce cycle électoral deux opérations de révision de la liste électorale, des élections du président de la République, des députés, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, des sénateurs et plusieurs élections partielles. Certes, des améliorations sont apportées. Nous ferons des propositions au gouvernement et nous prendrons les mesures correctives en ce qui nous concerne. Nous pouvons dire toutefois que le bilan est positif. Nous restons convaincus que la violence ne devrait avoir nulle place dans les élections. C'est pourquoi nous avons engagé plusieurs procès contre les casseurs. Il y a eu des condamnations à la prison ferme et des condamnations avec sursis. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons fait le pari de traquer tous ces gens qui font entrave à la marche de la démocratie dans notre patrie. Qu'ils soient agents de la commission électorale indépendante, politiciens, électeurs ou simples citoyens. Plusieurs de nos agents indélicats ont été durement sanctionnés. sanctionnés et plusieurs commissaires dont les faits et comportements ont été préjudiciables à la crédibilité de la commission électorale indépendante ne siégeront plus dans les commissions locales pour bientôt. Pour les échéances électorales futures, nous formons le vœu que les Ivoiriens s'approprient la matière électorale en l'incrustant dans leurs mœurs. Alors pour 2024, je soumettrai à la commission centrale le chronogramme de la révision de la liste électorale et celui de l'élection présidentielle à venir.
Nous écoutions à l'instant le président de la commission électorale indépendante CEI, Koulibaly Kubière Ibrahim. L'ONG Mon Enfant, Mon Futur vole au secours de deux cantines scolaires dans le département de Tabou. Il s'agit des cantines des écoles primaires publiques des villages de Wodjéré et de Georgetown qui ont reçu des vivres et une plantation de palmiers à huile pour financer la nourriture des élèves et ce, afin de leur permettre de suivre correctement les cours. Le don a été fait le 12 janvier dernier dans la cour de l'inspection de l'enseignement primaire de Tabou. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant sur place.
L'ONG Mon Enfant, Mon Futur avait pour mission de contribuer au bien-être des enfants, s'est penché sur la préoccupation de l'approvisionnement des vivres dans les cantines scolaires. Et le choix des villages de Wodjéré et Georgetown, proche de la frontière du Libéria, est justifié par Atrik Kwasi, président de l'ONG Mon Enfant, Mon Futur.
Le don est constitué de 1 tonne de riz et de 4 cartons de bois de conserve. L'élément le plus important, c'est la mise en place du processus de pérennisation pour l'école de Wodjéré. Cette école, avec le don de 2 hectares de palmiers à huile, nous pensons que l'école pourra désormais être autonome en matière d'approvisionnement en vivres de sa cantine. À Georgetown, il arrive des périodes de l'année où des parents ayant des champs de l'autre côté de la frontière, au Libéria, tous les enfants sont obligés d'abandonner l'école pendant au moins 1 mois, aller au champ avec les parents et revenir lorsque les parents sont de retour. Mais avec l'ouverture de la cantine, ils pourront être présents au village et aller à l'école de façon régulière.
Pour le préfet de Tabou, Kwaku Kalidja, ce don apporte un soulagement aux cantines.
Ce don nous a ravis parce que nous connaissons les difficultés des enfants qui viennent des villages environnants pour l'école et ils sont souvent loin de leurs parents et donc à midi ils ne mangent pas et cela pousse beaucoup d'enfants même à abandonner l'école. Ce que l'État fournit c'est 26 jours dans l'année. En principe, les populations doivent prendre le relais. Malheureusement, c'est pas toujours le cas et c'est difficile pour les cantines.
L'occasion a été saisie pour lancer un appel aux élus et cadres pour soutenir les cantines scolaires. Kofi Benson de Tabou, Radio de la Paix.
Merci à vous, Kofi Benson. Et nous avons une note noire, triste dans ce bulletin. Le journaliste béninois Jérôme Carlos n'est plus historien et écrivain. Jérôme Carlos, né le 30 septembre 1944 à Porto Novo, il a marqué l'univers médiatique de l'Afrique de l'Ouest ainsi que le monde de la littérature. L'homme de lettres a malheureusement déposé définitivement sa plume le 15 janvier dernier à Cotonou, au Bénin, à l'âge de 80 ans. Pour en savoir plus sur l'illustre journaliste, Désiré Gapinan a joint Yao Noël, journaliste ivoirien qu'on écoute.
Jérôme Carlos était un grand humaniste, féru de culture, un érudit, dense, talentueux. Et donc, c'est un homme très attachant, un homme très sympathique, très cultivé et qui aimait passionnément son métier, le journalisme. Et donc, qui le lui rendait bien parce que Jérôme Carlos, sa carrière a émerveillé plus d'un en Afrique et hors d'Afrique. Pour tout résumer, c'était un grand intellectuel, un grand journaliste, un écrivain. Je souhaite seulement, en tant que journaliste et en tant que président aussi d'une union de journalistes africains, que son exemple, son passage inspire les générations actuelles et futures des journalistes africains en vue d'avoir toujours un journalisme africain de qualité. Ce que Jérôme Carlos nous laisse, ce sera exercer un journalisme professionnel, crédible, responsable, excellent.
Vous venez de suivre Yao Noël, journaliste ivoirien qui s'exprimait sur le décès du confrère béninois Jérôme Carlos. Sur le continent, l'opposition non armée au Tchad a appelé hier mercredi le général et président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, qui a pris le pouvoir à la mort de son père en 2021, à renoncer à se présenter à la prochaine présidentielle prévue fin 2024. La principale plateforme de l'opposition et de la société civile Wakit Tama a accusé également la communauté internationale, la France en tête, de soutenir une succession dynastique à la tête de ce pays. Et sa volonté est de conforter, Mahamat Déby dans sa volonté de confisquer le pouvoir, y compris par la force. Et puis en sport football, la deuxième journée de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 s'ouvre aujourd'hui avec les matchs du groupe A dans lequel les éléphants seront aux prises avec les Super Eagles du Nigeria dès 17h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Mais avant, l'opposition Guinée-Équatoriale-Guinée-Bissau se jouera à 14h sur la même pelouse. Des matchs à vivre sur Radio de la Paix, pour rappel. Et puis hier à San Pedro, au stade Laurent Pokou, le Maroc s'est nettement imposé 3-0 contre la Tanzanie, qui a fini à 10 lors de ce premier match du groupe F, quand la République démocratique du Congo a été accrochée par la Zambie sur un score de 1-0. On retrouve Francis Cassis à l'instant pour la revue de presse, la revue des titres, pardon.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Nous ouvrons notre revue des titres de vos journaux de ce jeudi par la billetterie de la CAN et le duel Côte d'Ivoire-Nigeria d'aujourd'hui pour la deuxième journée du groupe A. CAN 2023, achat de tickets, un affrontement évité de justesse au plateau hier, annonce à propos de la billetterie le jour plus. Pendant que l'intelligent d'Abidjan lui titre ainsi, difficulté de la billetterie, la CAF rassure encore, même si ça coince toujours sur le terrain. Sur le match, l'équivalent d'un duel entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria aujourd'hui à 17h au stade Alassane Ouattara de Bimpe, notre voix dit avoir fait une incursion dans le milieu des supporters ivoiriens avec ce titre. Avant Côte d'Ivoire-Nigeria ce soir, l'ambiance chez le fou des éléphants. Pour le sursaut, match Côte d'Ivoire-Nigeria, éléphant, la pression monte. Quand la voix originale pour sa part rapporte ses propos ci de l'entraîneur ivoirien Jean-Louis Gassé. Nous allons imposer un match intense au Nigeria. Avant que, dernier heure monde, n'adresse cette supplique à l'équipe ivoirienne. Côte d'Ivoire, Nigeria, éléphant, qualifiez-vous pour nous ce soir. Entre-temps, toujours au sujet de cette CAN, l'Assemblée nationale bouge, à en croire certains quotidiens, notamment l'Avenir indiquant. Mobilisation générale autour de la CAN 2023. Duc Togo sort la théorie lourde et met en mission les 255 députés, ainsi que le quotidien des soins ivoiriens. Soutien à la CAN 2023 et aux éléphants. Les actes forts de Big Togo et des députés. Autre sujet abordé par vos tabloïdes, la coopération ivoiro-chinoise. Coopération internationale Ouattara, la Côte d'Ivoire et la Chine ont la même vision. Écrit à cet effet Fraternité Matin, que rejoint l'avenir avec la Chine salue le leadership du président Ouattara. Le patron, lui, rapporte cette phrase de Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine, à Alassane Ouattara. Sous votre conduite, la Côte d'Ivoire a trouvé son chemin. Pareil pour l'expression indiquant ceci du chef de la diplomatie chinoise. La Chine continuera de soutenir fermement la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo aussi, à la une de certains médias, dont la voix originale qui écrit « Présentation des vœux de nouvel an au président du PPSI, Laurent Gbagbo décortique l'actualité. » Le nouveau réveil de préciser ceci quant à cette actualité décortiquée par l'ancien président. Laurent Gbagbo, président du PPSI, rapporte la Cour des comptes « Il faut poursuivre et juger les coupables. » Et nous restons avec le nouveau réveil pour terminer notre revue des titres de vos quotidiens de ce jour avec ce titre-ci. Bras de fer autour des casses et destructions des espaces au plateau. Conflit ouvert entre le gouverneur Bakongo et le maire Ewo. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassis pour cette revue des titres. Dans l'édition de 8h, vous serez de retour pour le même exercice. d'action à présent. Il s'agit de Cyril Kofi, gérant de la société de gestion et de concept en informatique SGCI, concepteur de l'application mobile Santé Côte d'Ivoire, qui est une solution complète et gratuite qui connecte les patients au centre de santé. Il en parle avec Paul-Bénédicte Bolou, dont l'invité de la rédaction. Cyril Kofi, bonjour. Santé CIV, qu'est-ce que c'est ?
Santé CIV permet de faciliter la prise en charge des patients avant leur venue dans des centres de santé, en leur permettant d'avoir des informations de base sur le patient, de leur donner un identifiant unique, de permettre à ceux qui puissent faciliter la prise de rendez-vous, d'avoir la liste des actes de santé et des prestations de santé avec les coûts dans les centres de santé, et puis, pour finir, de faire également du téléconseil ou de la télémédecine.
Comment les populations peuvent accéder à cette application?
Déjà, pour accéder à cette application, il faut la télécharger. Donc, elle est disponible dans les différents stores. Vous tapez Santé CIV, ça vous permet de pouvoir télécharger l'application gratuitement, d'ouvrir votre dossier gratuitement et de vous permettre d'avoir un identifiant unique qui facilite votre prise en charge, quel que soit le centre de santé et que vous suivez partout.
Alors, comment se fera la protection des données des patients face à la cybersécurité?
L'avantage, c'est que nous sommes une entreprise des services numériques avec une forte propension à prendre en charge les aspects liés à la digitalisation, à la cybersécurité, Donc, nous sommes déjà techniquement assurés de ce que nous respectons les exigences en matière de sécurité, mais plus loin, mais que nous dotions de cette application de tous les mécanismes techniques et organisationnels pour faciliter la prise en charge et la sécurité des données qui y sont stockées. Et pour finir, sur cet aspect, nous sommes conformés à la régulation nationale auprès de la RTCI pour ce qui est de la gestion des données à caractère personnel pour laquelle cette application est conforme.
Le carnet médical numérique sous forme de bracelet ou de carte, vous en avez parlé, dites-nous, comment ça marche?
L'idée des cartes et des bracelets devait permettre en fait de remplacer les carnets de santé. Donc en fait, en gros, l'idée c'était de digitaliser les carnets de santé. Pour nous, on ne pouvait pas le faire sans nous appuyer sur également les dernières technologies en la matière, ce qui fait qu'on a introduit ces dispositifs-là. Et pour s'en doter, on a deux possibilités. La première, c'est dans le réseau d'hôpitaux connectés au système, donc c'est toutes les structures de santé aujourd'hui sur le Grand Abidjan et dans des grandes régions de l'intérieur du pays. Donc des dispositifs sont mis en place pour que le patient ou la population qui en a besoin puisse s'y retrouver et pouvoir se procurer cette carte ou ces bracelets-là. Et au-delà, la deuxième possibilité, c'est dans nos réseaux de distribution qui permettront de mettre à disposition ces cartes-là.
Parlez-nous des avantages de Santé CIV pour les patients et la population.
Ce que gagne en avantage la population, c'est déjà la facilité de prise en charge. Par le passé, lorsque vous vous déplacez d'un centre de santé à un autre, il fallait qu'on vous crée un nouveau dossier. Donc votre passif, votre historique médical n'était pas pris en charge. Et votre dossier ne vous suit pas partout. Donc le premier avantage qu'on donne, c'est d'avoir un identifiant unique qui vous permet, quel que soit le centre de santé connecté au système, de retrouver votre historique de santé et donc votre dossier patient qui vous suit partout, mais en toute sécurité. Donc ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est la gestion des rendez-vous. Au niveau des centres de santé, il était difficile de pouvoir prendre et suivre ces rendez-vous-là. Pour le patient aujourd'hui, il n'a pas besoin de se déplacer d'emblée vers un hôpital pour une prise de rendez-vous. Il peut le faire à distance. Depuis l'application mobile, prend son rendez-vous est validé, il a la notification, il se déplace pas vers le centre de santé et il se fait prendre en charge. Donc la prise de rendez-vous est beaucoup plus facile et son suivi également. Et puis l'autre chose, c'est le paiement électronique des actes de santé, donc l'affichage des actes. Il était difficile de savoir lorsque vous partez à l'hôpital combien coûte ne serait-ce qu'une consultation et de savoir quel acte est gratuit et quel acte ne l'est pas. Et c'était pas affiché. Donc dans l'application, vous avez la liste de tous les actes gratuits, la liste de tous les actes réduits et le coût des actes classiques qui se retrouvent également disponibles par centre de santé. Donc quand vous vous déplacez, vous savez d'emblée combien vous allez payer. Et mieux, vous pouvez payer même à distance avant même de vous présenter dans ce centre de santé-là. Et bien évidemment, j'ai envie de parler du dossier sécurisé du patient, mais c'est tout le corollaire du suivi du patient en lui-même qui est maintenu dans une sécurité également de ses données.
Et concernant les avantages pour les centres de santé, que savoir?
Pour les structures de santé, c'est vraiment l'avantage en gestion. L'un des gros problèmes qu'on avait dans les centres de santé qui ont fondé le projet même en lui-même, c'était la collecte des flux financiers. Parce qu'en fait, un centre de santé qui arrive à sécuriser sa collecte de flux, ça lui donne un avantage en investissement et en aménagement, en maintien même de son hôpital. Lors de la séance, les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes qui ont présenté leurs actifs en termes de chiffre d'affaires réalisés qui sont passés au simple, au double, au triple et qui a vu même des collaborateurs qui avaient des primes de 20 20 000 francs l'année, qui reçoivent aujourd'hui des primes de plus de 100 000 francs. Donc ça, déjà, il est financier pour le centre de santé. Ensuite, il garantit la sécurité et la sérénité des prestations elles-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, le centre de santé ne va pas dire que la prestation fait 2 000 francs pour qu'un usager ou un agent de ce centre-là vienne facturer 5 000 francs à la population. On ne viendra pas prendre 5 000 francs là où l'acte est gratuit. Donc ça, c'est une transparence dans la gestion également et dans le suivi également de tout le parcours du patient. Donc pour le centre de santé, on gagne en sécurité dans la gestion, mais on gagne aussi dans une facilité de suivi de ses activités.
Cyril Kofi, merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Cyril Kofi, gérant de la société de gestion et concept en informatique SGCI, concepteur de l'application mobile Santé CIV. Il répondait aux questions de Paul-Bénédicte Bolou dans l'invité de la rédaction. Un entretien qui met un terme à ce bulletin dont voici le rappel de l'essentiel. Budget de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire porté à 650 milliards de nos francs pour Dr Germain Cramaux, enseignant en économie. Cet investissement aura de fortes retombées pour le pays. La Côte d'Ivoire y gagne à tous les coups en termes de retombées diverses. Et puis à Tabou, les cantines d'écoles primaires publiques de certains villages ont bénéficié de dons en vivres de la part de l'ONG Mon Enfant, Mon Futur. Hors de nos frontières au Tchad, l'opposition appelle Idriss Déby à renoncer. Mahama Idriss Déby a renoncé à la présidence et accuse la France. C'est la fin de ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après nous Didier Blé pour votre magazine footballistique au cœur de la CAN.
Au cœur de la CAN, toutes les infos sur le déroulement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations avec nos envoyés spéciaux.